Ok, d'accord.
Mon histoire.
Tu crois?
Oui.
Vas-y, je t'écoute.
Les chercheurs de l'ARC analysent, scrutent, détricotent, critiquent notre société. Leurs écrits trouvent un écho chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors dans ce podcast, on a décidé d'ancrer leurs analyses dans le réel, de les illustrer, de les nourrir, de les enrichir en invitant celles et ceux qui sur le terrain bougent, subissent, se mobilisent, expérimentent et pensent.
Du taf au fumoir, un podcast qui vous parle
sans fausse modestie,
sans tabou,
ou presque
sans a priori, si c'est possible,
de problématiques qui traversent notre société,
avec des gens du terrain,
on va réfléchir ensemble,
et puis
si on doute,
c'est tant mieux.
Du taf au fumoir.
Au-delà des questions d'accessibilité qui se sont posées de manière exponentielle pendant le confinement, au-delà aussi de la fondamentale question des données privées, qui à bien des égards n'est pas encore réglée, la question du numérique se pose en tant que sujet éminemment politique. C'est ce que nous avons décidé d'aborder dans ce troisième épisode du TAF au fumoir, avec Nicolas Marion, chercheur à l'ARC, qui publie dans notre revue Permanence Critique, revue dont Raph vous parlera juste après, une étude intitulée « L'autoritarisme discret du technocapitalisme ». Nous avons aussi invité Guillaume de Villers, qui est responsable de l'EPN de la bibliothèque de Watermal-Boisfort et membre de Cabane, et Xavier Polfit, qui est responsable formation en CPAS et enseignant.
Il est effectivement grand temps que les associations réencastrent leur communication dans les valeurs du projet qu'ils portent, qu'ils arrêtent de dissocier le « pourquoi ». Ils parlent du « comment » ils parlent et de « avec qui » ou « à l'aide de qui » ils parlent.
Vous pourrez retrouver l'étude de laquelle part cette émission dans la nouvelle revue de l'ARC, Permanence Critique. Cette revue, dont le premier numéro paraîtra fin juin, est le nouvel outil de diffusion des analyses et études de nos chercheurs, enrichi de contributions externes. Elle se développe autour d'un thème central et propose également des comptes rendus, des analyses sur d'autres sujets, des réactions face à l'actualité, etc. Pour vous y abonner, rendez-vous sur notre site internet arc-culture.be.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Nico, dans ton étude, tu expliques que l'expansion numérique que nous connaissons renforce la tendance autoritaire de l'idéologie néolibérale et que ça implique des dominations nouvelles qui appellent des combats nouveaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à ces constats ?
Je peux essayer de te l'expliquer, effectivement, même si je vais essayer de faire court et donc je vais évidemment pas rendre toute la nuance et toute la substance de ce qui est dit dans l'article. Alors, en fait, si tu veux, la question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure l'expansion du numérique, dont on sait qu'elle est assez énorme en ce moment, surtout depuis la crise sanitaire, donc dans quelle mesure, en fait, cette expansion indéfinie du numérique, elle va renforcer ou non les tendances autoritaires qui seraient, à mon sens, intrinsèques au néolibéralisme. Sachant que le néolibéralisme, on peut considérer, si on veut l'appeler autrement, que c'est littéralement un libéralisme autoritaire. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais donc ça, c'est la question qui traverse à peu près la proposition que je fais. Et l'hypothèse essentielle, c'est de dire que le numérique, comme technologie, fournit l'architecture technique idéale pour cet autoritarisme néolibéral. Et donc ça, c'est l'hypothèse, et la toile de fond globale, c'est l'idée que, en fait, le numérique et le néolibéralisme, en fait, ce sont des réalités qui procèdent d'un même spectre, un même spectre rationnel, et qui concernent, en fait, la montée en puissance de différents registres, mais donc c'est des registres, je dirais, de lisibilité et de contrôle du comportement humain, en fait. Alors, si l'hypothèse c'est que le numérique et le néolibéralisme se renforcent mutuellement, donc ce sont des réalités concomitantes qui appartiennent au même spectre, bien je vais essayer de montrer que il y a quelque chose d'intrinsèquement autoritaire à l'intérieur de cette expansion numérique. Alors pourquoi je vais expliquer ça, pourquoi le néolibéralisme autoritaire, à mon avis c'est à cause d'une double exigence qui est omniprésente dans sa gouvernementalité, dans sa façon de fonctionner. Sa première exigence, c'est l'idée de sanctuariser le marché de toutes les ingérences politiques, démocratiques, politiques, populaires, qui contreviendraient à sa libre régulation, ou qui contreviendraient à sa façon libre de fonctionner et à ses exigences propres, qui sont des exigences capitalistes d'accumulation, comme on le connaît, ça j'ai pas besoin d'expliquer. Donc ça, c'est sa première exigence. Sa deuxième exigence, c'est de transformer tout, tout fait, toute réalité, en une réalité exploitable, et exploitable par le dit marché qu'il sanctuarise par ailleurs. Donc ça, je pense que c'est les deux exigences, on va dire, globales du néolibéralisme. Et au fin de ces deux exigences, eh bien, il y a tout un ensemble de dispositifs autoritaires qui vont être déployés. Et donc, la différence spécifique du néolibéralisme, c'est pas tellement de faire disparaître l'État pour rendre ces deux exigences possibles, c'est de confiner l'État un maximum à toutes les fonctions qui vont permettre à ces deux exigences de se déployer, et notamment en renforçant toutes les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire des fonctions de contrôle, des fonctions de police, des fonctions de direction, des fonctions d'anticipation, des fonctions d'orientation du comportement humain. Tout ça dans l'idée, par ailleurs, que ça reste un système libéral et que donc il doit absolument garantir au moins l'image du fait que c'est un système de fonctionnement, c'est un gouvernement qui s'appuie sur des réalités démocratiques, libres, qui continue à favoriser ou à défendre la liberté des individus, leur autonomie, leurs choix, etc. Donc ça, c'est, vous voyez, on sent déjà qu'il y a tout un tas d'exigences un peu contradictoires à l'intérieur de ce système gouvernemental, mais la question ici sur laquelle moi je veux me pencher, c'est quel rôle le numérique joue là-dedans, et pourquoi, depuis qu'on utilise de plus en plus massivement le numérique, pourquoi les tendances autoritaires de ce système-là, elles se renforcent. Le numérique, justement, c'est ce que j'essaie de défendre dans mon texte, il se fonde sur une rationalité particulière, qui est, on pourrait le dire simplement en disant que c'est une rationalité algorithmique, et c'est-à-dire elle se fonde plutôt sur une logique de calcul et moins sur une logique d'appropriation humaine. Donc c'est une logique de calcul intégral, entre guillemets. Donc il y a une espèce de délision du facteur humain à l'intérieur du numérique, ça je pense que je dis une évidence. Et il y a un théoricien qui s'appelle Lewis Mumford qui avait proposé un concept qui s'appelle un concept de technique autoritaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il disait les technologies autoritaires, ce sont toutes ces technologies de masse qui tendent à renforcer la centralisation des pouvoirs et qui sont très peu appropriables par l'homme. Ce qui, à mon avis, est le cas du numérique. Je reviendrai sur cette question d'appropriation qui est le point un peu clé de développement. Mais donc, en plus de ça, c'est une technologie qui est animée par une espèce d'idéal de capture intégrale du réel. Donc, tout potentiellement est numérisable, appropriable par le numérique, intégrable dans ces technologies, intégrable dans ces logiques, intégrable dans ces applications. Et cet idéal-là, il est d'ailleurs défendu et soutenu par ces essentiels architectes qui sont aujourd'hui des énormes industries privées. On le sait, il y a les GAFAM pour ce qui concerne le marché américain, mais il y a d'autres opérateurs dans le monde entier. Donc cette idéologie de capture intégrale, c'est-à-dire le numérique pourrait avoir une place partout et être référentiel en toute situation, et capturer absolument toute la réalité pour pouvoir la marchandiser, cet idéal-là, il est vraiment soutenu activement par ceux qui dirigent essentiellement cette industrie, cette technologie. Donc, dès lors qu'on est dans cette idée de convertir tout fait humain en matière marchandisable, y a une espèce de transformation, je dirais, du référentiel capitaliste, qui est que là où il pouvait se baser avant sur une idée que le comportement humain est plus ou moins imprévisible, aujourd'hui, ça s'est renversé, et donc aujourd'hui, on est plutôt dans un régime où on estime que le comportement humain est infiniment prédictible, et plus on est capable de prédire ce que l'être humain va faire, plus l'information qui permet de faire ces prédictions est marchandisable à haute valeur. Donc, c'est une des dimensions autoritaires du numérique, si vous voulez, c'est que on ne postule plus que l'être humain est libre, on estime que son comportement est lisible et qu'il est logique que le marché en sache de plus en plus sur le comportement humain. Et ce savoir-là, tous ces océans de données qui permettent de savoir ce que les gens vont faire et d'orienter le comportement, elle n'est plus seulement destinée à t'encourager à acheter du coca ou à faire ceci ou à faire cela. Ça touche la sphère politique désormais. Et ça y concourt de façon absolument déterminante. Je parlais des deux exigences, sanctuariser le marché et puis réduire au maximum l'ingérence des, des luttes politiques à l'intérieur de ce marché. Et c'est la violence aussi et la puissance de ce système, c'est qu'il est devenu, et ça, en tout cas pour ce qui nous concerne à l'ARC, on en est un exemple assez explicite, mais je pense qu'on est très très loin de les seuls, c'est que pour une part significative de ce qui a lieu aujourd'hui, toute la mobilisation politique passe par ces réseaux. Mmh. Donc ça, c'est une autre chose que j'essaie de montrer et d'expliquer dans cette étude, c'est que tout le problème, c'est que globalement, notre capacité de mobilisation, d'information, d'atteinte des publics qu'on voudrait viser, toucher par cette interrogation politique, eh bien, on va le faire par les réseaux qui accueillent le maximum de personnes et sur lesquels on a le plus de chances de toucher une grande partie de la population. Or, le faisant par exemple sur Facebook ou le faisant par exemple sur Twitter, etc., en réalité, on rentre dans ce qu'on dénonce. Mmh. Ça, c'est une situation qui s'est déjà posée à d'autres occasions, hein, mais qui là est particulièrement explicite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va contribuer à produire ? Eh bien, on va contribuer à produire la lisibilité des comportements politiques opposés à l'état de choses néolibéral présent. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une véritable effraction critique à l'intérieur du champ de la discussion publique et politique, eh bien, on va juste fournir matière à prédictibilité. On va en fournir davantage. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, on va augmenter la lisibilité de ce qui pose problème sociétalement, comment est-ce qu'il faut penser les choses. Et la puissance de l'outil du calcul de prédictibilité algorithmique qu'ont développé ces sociétés est quand même très très puissante. Je veux dire, ça permet vraiment d'avoir un champ social très lisible, d'adapter aux besoins. Et donc, nous qui sommes, on se revendique opérateurs critiques qui vont essayer de s'opposer à un certain nombre de choix sociétaux, on va le faire sur des plateformes qui ont tout intérêt, enfin, pas seulement intérêt, mais qui vont contribuer à ce que ces combats-là n'aboutissent pas, ou soient corrigés de la bonne manière, ou soient anticipés de la bonne manière. Donc ça, c'est une puissance qui, à mon sens, est très problématique. C'est-à-dire, le fait qu'on soit presque condamné de passer par ces réseaux pour pouvoir, pour pouvoir atteindre les gens qu'on veut atteindre, annule pour une bonne part la portée critique de ce qu'on y dit.
Oui, ouais, totalement.
Je pense qu'il est très important de désormais de faire du numérique une question qui est aussi grave que celle de la sécurité sociale, que celle de l'environnement, que celle de toutes ces questions qui animent énormément le débat public. Le numérique l'anime assez peu, en fait, finalement, en regard de l'extrême gravité que ça implique socialement parlant. Donc, je pense que si on est là, c'est surtout pour discuter de ça.
Du taf au fumoir.
Justement, Guillaume et Xavier font partie des trop rares, en effet, citoyens qui s'intéressent à ces questions et en outre travaillent dans le secteur du numérique. Est-ce qu'entre ce que Nicolas vient d'exposer et vos pratiques, est-ce que vous voyez des liens ? Est-ce que vous ressentez ce qu'il décrit là dans vos pratiques professionnelles et en quoi ?
Alors, dans nos pratiques, il y a un présupposé de Nicolas qui dit « faciliter ou accompagner l'expansion, c'est pas mon job. Hein. Moi, je facilite pas l'expansion. Je l'accompagne, peut-être. Mais l'idée, c'est de ne pas la subir, de ne pas la faire subir. Parce qu'il y a ce côté effectivement implacable. Le citoyen moyen se doit d'être versé dans les arts numériques, enfin au moins dans celui de remplir un formulaire. » Cette fabuleuse crise sanitaire nous l'a prouvé encore plus fort. Et donc, il y a ce monde en marche auquel on pourrait, on semble, ne pas pouvoir échapper. Il est présenté et vécu, en tout cas, comme quelque chose d'inéluctable. J'anime un espace public numérique. J'accompagne des gens, des usagers qui se présentent avec des besoins qui sont toujours éminemment personnel, qu'on fasse un atelier pour 3, 5 ou 10 personnes, bien c'est 3, 5 ou 10 problèmes différents, 10 attentes, ou 10 fois 10 attentes différentes. parce que chacun a ses moyens, son appétit, ses, enfin, tout plein de conditions particulières et de besoins particuliers. Et cette première ligne des espaces publics numériques, elle est là pour répondre à la fracture. Oh, la grande méchante fracture numérique, elle est flagrante, c'est sûr. Et bon, on l'a démontré plusieurs fois. Hein, c'est pas tant l'équipement que l'usage, évidemment. Cette littératie, hein, pour utiliser les beaux buzzwords. Et donc, nous, animateurs, accompagnateurs, on est là pour aider, pour accompagner, pour donner un peu de savoir-faire et d'intelligence autour de ces usages. Et c'est quelque chose qu'on a pu dire parfois, c'est qu'on aimerait bien pas avoir à faire ce métier. C'est-à-dire que ça fait pas de nous des chantres du numérique. On veut pas le tout numérique. On aimerait bien qu'il y ait des guichets. On aimerait bien qu'il y ait des gens pour travailler pour être inutile. Mmh. Et juste peut-être pour continuer sur le pourquoi la fracture, ben oui, on se retrouve, nous, en fait, à réparer les pots cassés. Pourquoi des individus sont laissés sur le côté de la route ? Par qui sont-ils laissés sur le côté de la route ? D'abord par les marchands, les marchands de jouets, moi, c'est comme ça que je les appelle. Parce qu'on a plein de jolis jouets seulement d'emploi, ça c'est régulier, et par nos pouvoirs publics qui décident de manière, que je vais dire unilatérale, hein, même si c'est censé être concerté, que tiens, tel ou tel service sera digitalisé. Alors ce qu'a expliqué Nicolas, ce qui est un peu plus détaillé dans son étude, c'est que évidemment tout ça va d'une démarche plus global, de simplification. C'est le grand truc, hein, c'est plus simple à gérer quand c'est simple. Donc on va réduire les gens à des données. Et donc, nous on se retrouve à gérer les pots cassés dans un truc que parfois on appelle l'inclusion. Et ça, peut-être qu'on en parlera plus tard. L'inclusion numérique, moi je le vis un peu comme une absorption forcée, ou en tout cas, voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui...
Oui, je pense que, à mon avis, on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est évidemment un des points clés.
Xavier ? Donc,
moi, je vais peut-être rebondir en revenant par rapport à l'étude, en disant ce que ça a éveillé chez moi dans la lecture, qui est quand même dense, il faut le dire. La première, c'est pour revenir sur la question du politique dans la technique. Donc moi, j'enseigne à des futurs assistants sociaux, notamment avec un focus particulier sur la collecte et l'usage des données. Et donc la question de la vie privée, qui, on y reviendra peut-être plus tard, devient malheureusement une question qui est moins à l'ordre du jour aujourd'hui. La question qui m'anime de manière centrale et qui permettra peut-être de revenir là-dessus, c'est la question de la finalité, en fait du sens. De se demander dans quelle mesure cette technique, c'est pas tellement ce qu'elle permet ou ce qu'elle oblige, mais plutôt de voir pourquoi on va l'utiliser et pour quelle finalité. Et mon sentiment à la lecture de l'article et par rapport à ce que je vis dans mon quotidien, c'est plutôt de se dire qu'on a réussi à complètement scinder les données, les traitements qui sont faits dessus, des finalités pour lesquelles on fait ces traitements. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas tellement de savoir... pourquoi est-ce qu'on collecte toutes ces données ? C'est de se dire, on va collecter un maximum de données, et après on verra bien ce qui sera possible d'en faire. Et je pense que c'est à partir du moment où on cautionne ce genre d'approche-là, qu'on rentre dans une dynamique où la technique prend le pas sur le politique. Ça veut dire, pour le dire autrement, je pense que là où on pourrait, entre guillemets, réenchanter les choses, réencastrer la technique dans la société, en fait, parce que c'est de ça dont il est question, comme le néolibéralisme a fait qu'on a désencastrer l'économie de la société, on est occupé à désencastrer la technique de la société pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la technique n'a comme finalité que ce qui est possible pour la technique. Et je pense qu'une manière saine pour les citoyens, sans devoir devenir des techniciens ou des experts de ces questions-là, c'est de pouvoir se réapproprier la question du sens, et pas du comment, mais du pourquoi. Et que donc c'est plutôt vers ça que moi j'ai tendance à essayer de mettre mon énergie, parce qu'expliquer à quelqu'un comment fonctionne tel protocole, tel réseau, en soi, tout le monde s'en fout. On ne veut pas savoir comment fonctionne Facebook. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi Facebook va conclure tel type de contrat avec moi. Ce n'est pas tellement les petits alinéas, mais c'est plutôt le master plan. Et je crois que c'est là-dessus qu'on a perdu le contrôle en tant que société, en tant que pouvoir public et en tant que citoyen.
Est-ce que tu veux dire, par exemple, en tant qu'assistant social, je reçois un bénéficiaire, je dois encoder une série d'items avant de pouvoir aller plus loin dans le dossier, par exemple, c'est ça.
Exactement.
Et donc, je devrais là, en tant qu'assistante sociale, me poser la question de pourquoi est-ce qu'on me fait encoder tous ces items dont je n'aurais pas forcément besoin pour accompagner cette personne. Et c'est là que je devrais peut-être réagir par rapport à cette politique numérique, quoi. C'est là que j'aurais un levier.
Pour donner un exemple assez concret, hein, on a eu, les CPS ont été abreuvés de nouvelles missions avec la pandémie, donc notamment de donner des aides sans nécessairement avoir les moyens humains pour fournir ces aides nécessaires à la population. Et il y avait une volonté des pouvoirs publics de s'assurer que ces aides arrivaient dans les meilleures mains. C'est-à-dire de dire, on va viser tel type de public, tel type de public. Et du coup, bien nécessairement, pour contrôler l'action publique, eh bien, on demandait qu'on puisse démontrer que tel et tel public était plutôt touché de manière prioritaire. On visait notamment, un exemple qui, moi, m'a assez marqué, c'est on visait les travailleurs du sexe. En se disant, bah tiens, telles aides, on souhaiterait, de manière politique, que ça bénéficie aux travailleurs du sexe pour des raisons qui me semblent tout à fait légitimes et évidentes. Ce que ça amène derrière, c'est que du coup, on va mobiliser la technique pour s'assurer que ces aides soient bien octroyées aux bonnes personnes. Mmh. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on se retrouve du coup, en tant que travailleur social, à devoir identifier les personnes comme étant travailleurs du sexe, et à commencer à en faire un critère qui est structurant dans la manière dont les accompagnements vont se faire. Et donc la
question... en outre, à les encoder comme travailleurs du sexe.
Voilà, ou pour le dire autrement, à dire « Madame Machin est pute »,
oui,
comme salaire
ça.
Principal ou accessoire. Ce qui pose d'autres questions.
Ce qui n'a pas forcément envie, quoi. Ouais.
Et ce qui n'est peut-être pas forcément vrai.
Mm-hmm. Oui.
Ce qui n'est peut-être pas forcément vrai et ce qui n'est peut-être pas forcément structurant, ce qui nous renvoie à comment est-ce qu'on va définir les gens. Pour revenir à mon propos initial, c'est la question du sens. C'est-à-dire, à partir du moment où j'emploie l'outil numérique, qu'est-ce que je veux réellement faire ? Parce que le constat qu'on a actuellement, c'est qu'une donnée qui est collectée et qui est encodée, les usages ultérieurs, on n'a plus aucune maîtrise. On le sait bien dans le contexte actuel, ce n'est pas l'autorité de protection des données ou les délégués à la protection des données en entreprise ou en administration qui vont garantir quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment au niveau de chacune des personnes du métier que cette question doit pouvoir être posée de manière pertinente, qui est de se dire, est-ce que je sais pourquoi je le fais ? Et si je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne le fais pas. Et donc ça, c'est pour donner un exemple peut-être un peu plus concret là-dessus.
Nico, tu parlais tantôt d'opacité, de non-maîtrise qui touche la population, les citoyens, mais est-ce qu'elle ne touche pas aussi les décideurs politiques et les décideuses politiques ? Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que, outre le fait que ça nourrisse un système autoritaire, ça on est bien d'accord, ça peut arranger certains politiques, en particulier ceux qui nous dirigent aujourd'hui, mais même dans l'opposition, on n'entend pas de programme numérique etc. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait qu'ils n'y comprennent rien non plus, en fait ? Et donc, on a confié ça à des grosses machines commerciales, et on ne peut même pas intervenir parce qu'on n'en est pas capable.
Question. Mon avis, on aura tous un avis là-dessus, mais je suis assez convaincu de l'incompétence assez radicale des hommes et femmes politiques en matière de numérique, ça c'est assez explicite. En tout cas, en Belgique, c'est extrêmement explicite. Donc les personnes qui reçoivent la charge, ce qu'on appelle l'agenda numérique, sont d'une incompétence absolue pour même savoir en dire quoi que ce soit. Ce qui va faire en réalité que l'essentiel des objectifs qui vont être donnés en matière politique vont surtout concerner la compétitivité économique du pays par rapport à l'économie numérique, et quand même le point d'attention central de toute cette affaire. Hein. Donc c'est quand même surtout une question de valorisation à l'intérieur d'un marché. Exemple typique, c'est l'agenda numérique qui avait été nommé Digital Belgium récemment, sur lequel on a eu l'occasion de travailler d'ailleurs. Le ministre en charge ou le secrétaire d'État en charge, pour l'essentiel, ne comprend rien des ressorts de ce dont il est censé, parler. Et du coup, convie à la table les mastodontes qui, eux, ont la capacité d'appropriation et d'orientation qui, bon, évidemment, correspondra à leur intérêt. Ça, c'est l'aspect dont ils ne pensent pas. Mais je veux dire, qui de plus à même pour gérer des infrastructures et des questions numériques aussi, aussi complexes que des gens comme Microsoft ou des gens comme Google qui sont par définition, du coup, de ce fait, des acteurs qui ont des positions quasi monopolistiques et avec lesquels il devient absolument... Enfin, ça devient presque impossible de travailler sans eux. Ils ont une telle place à l'intérieur de cette architecture technique extrêmement complexe qu'évidemment, en fait, le plus simple, c'est de faire appel à eux. Voilà, toujours en postulant que, bien sûr, c'est dans l'intérêt de la population, et de la bonne compréhension, et parce que ça présente des avantages, et parce que ceci et cela. Moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. En fait, ma conviction, elle est plutôt contraire. C'est que là où se pose la question politique, elle est bien sûr sur des questions techniques, de logiciels, etc. Mais elle est aussi... Il est tout à fait possible de réfléchir à l'impact du numérique sur la société sans comprendre comment fonctionne un algorithme. Mmh. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est cette question-là qui... Ça, je crois que les hommes et femmes politiques le savent très bien, mais font une économie volontaire de cette question. Parce que c'est beaucoup plus simple de gérer cette question, qui est pourtant centrale, en postulant le fait que, de toute façon, c'est trop compliqué pour la population. Donc on peut mettre quelqu'un qui est absolument non compétent, et on ne sait même pas d'où il vient, Mathieu Michel, à la tête d'une des questions qui est absolument fondamentale pour... comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas au nom de quelle idéologie, on ne sait pas quel est son plan. Je veux dire, on va avoir 2-3 propositions à la sauvette. Oui, c'est bien, il faudrait que les personnes âgées aient plus facilement accès. Il faudrait... Bon, quoi des questions déontologie, quel modèle de valorisation économique, quelle économie politique, quelle limite, quel cadre, quel... Tout ça, on n'a jamais de réponse là-dessus. Et en fait, je pense, ça c'est un travail d'éducation populaire, et c'est sans doute, je pense que Guillaume aurait des choses à dire là-dessus, c'est comment est-ce qu'on sensibilise une population à s'intéresser à cette question ? Parce que plus on laissera les choses avancer, plus, la fracture, là, non pas ni d'accès ni d'usage, mais la fracture juste de compréhension des enjeux, qui est une fracture de politique, va continuer à s'intensifier. Donc ça, je veux dire, on est... Pour moi, c'est sans doute la facture la plus grave. Que des gens ne puissent pas utiliser un compte en banque en ligne, c'est sans doute ennuyant, mais Mais par contre, qu'une partie immense de la population n'ait aucune compréhension des enjeux politiques qui se jouent à travers cette technologie, ça, c'est beaucoup plus grave, par contre. Parce que ça les exclut de champs de décision qui sont absolument, absolument fondamentaux. Donc ça, c'est... Voilà, c'est ce que je t'en dirais. Donc oui, il y a certainement une incompétence du pouvoir politique, mais j'ai tendance à croire qu'elle est ou inconsciemment ou savamment entretenue. Ouais. C'est un des deux, mais de toute façon, ça n'y change rien, ça a le même effet. Il n'est pas totalement inactif, le pouvoir politique. Il encourage par des stratégies particulières, financées de façon particulière, etc. Donc c'est aussi la question, quel rôle il prend là-dedans. Je veux dire, il ne doit pas simplement être interpellé, il faut aussi penser... la façon dont le pouvoir public est un concours essentiel de l'expansion numérique. Je veux dire, ça ne peut avoir une telle extension de diffusion que parce que les pouvoirs publics y contribuent et adoptent cette logique et l'encouragent et payent des personnes intermédiaires pour faire ce boulot. Donc là, c'est aussi un autre spectre qu'il faut interroger, tu vois. Mais bon, voilà.
Xavier ?
Oui.
Juste rapidement, c'était ce sur quoi je voulais revenir, en fait, sur chercher l'interpellation de départ. C'était, tiens, nos décideurs, effectivement, ils sont pas éclairés, ils sont dans la même situation que le citoyen consommateur lambda. Ils sont effectivement complètement perdus et ils font appel à des conseillers, à des experts, à des gens qui, eux, ont un véritable agenda. Ont une véritable stratégie. Et c'est ce qui est extrêmement dangereux avec cette informatique, ce numérique contemporain, c'est le côté clé en main. C'est « Oh, tu vas pas t'emmerder à apprendre tout ça. Regarde, j'ai un truc qui marche. » Et c'est cette tentation de la facilité qui est extrêmement dommageable. C'est là-dessus qu'ils s'engouffrent tous, l'un après l'autre, gouvernement après gouvernement... Voilà, tout à fait. C'était juste mon
raccourci. Oui, moi, quand même, en termes de responsabilité du politique, de dire que c'est compliqué, ils sont comme monsieur et madame tout le monde, etc., je voudrais quand même mettre un petit bémol, parce qu'ils sont coupables. Ils sont coupables au niveau de la législation. Ça veut dire qu'on dit que c'est quelque chose de compliqué, c'est difficile à cadrer. Maintenant, ça fait quelques années qu'est rentré en application le règlement européen sur la protection des données. Ce qu'on constate, c'est que ce règlement, en fait, devrait nous donner déjà de quoi veiller aux finalités. Devrait, pas protéger tout le spectre, mais déjà commencer à siffler la fin de la récré. Ce qu'on voit, après 2-3 années où ça tourne, c'est qu'en fait, le politique a tout fait pour que ce soit inapplicable. En permettant que l'autorité de contrôle ne soit pas indépendante, en veillant à ce que les procédures dilatoires des GAFAM aboutissent, ça veut dire de s'assurer que les plaintes n'aboutissent pas et qu'on n'aille jamais ennuyer les gros poissons, en limitant la portée des amendes, en s'arrangeant, en Belgique en particulier, à ce que nos administrations publiques ne soient pas vraiment soumises à ces obligations-là. Donc, qu'ils soient peu compétents, parce que c'est une matière complexe, oui, qu'ils n'aient pas de vision, parce que c'est des arrivistes et des fils d'eux, ok, j'entends. Maintenant, là où ils sont responsables, c'est de couper les jambes à cette autorité de protection, à ne pas rendre le droit applicable. Et ça, c'est leur boulot, en fait. Je ne leur demande pas de devenir des codeurs. Je ne leur demande pas même d'aimer le logiciel libre. Je ne leur demande même pas d'avoir une vision politique. Je leur demande juste de permettre de s'assurer que les réglementations qui sont en place soient applicables. Et de ce qu'on voit, en tout cas ces dernières années, c'est que le temps qui passe à leur tâche, ils le passent à déconstruire ce qui a été mis en place pour nous protéger tous. Donc la responsabilité politique, pour moi, elle est clairement établie. Et ça, c'est un vrai problème de société. C'est non seulement ils se font conseiller sur les solutions à venir, mais ils se font aussi conseiller sur la manière que notre cadre législatif soit inopérant. Et là-dessus, pour moi, ils sont responsables. Et ça, il serait quand même grand temps de le changer. Ça ne demanderait pas énormément d'énergie, simplement, à un moment donné, de dire, eh bien, l'autorité doit être indépendante et on va la rendre indépendante. Nos administrations doivent respecter. Et donc, quand on se rend compte qu'une administration ne respecte pas, eh bien, on la sanctionne. Et les responsables politiques qui sont à la tête de ces administrations qui en ont la tutelle sautent, et ainsi de suite. De fonctionner avec des vraies responsabilités politiques. Parce que là, avec la complexité du numérique, on a tendance à cacher les responsabilités de chacun là-dedans, et particulièrement la responsabilité des décideurs, qui donnent en fait la couleur au futur qu'ils sont occupés à nous mettre en place. T'as pas plus de gens quand tu mets ton annonce sur Facebook que quand tu fais un petit fly ou que chacun, tu le dis à 4 personnes et tu dis à chacune des personnes, tu dois le dire à 4 personnes qui doivent le dire à 4 personnes, t'auras autant de gens dans la salle. Et tu vas probablement toucher un public qui est aussi large que celui que tu vas pouvoir toucher par Facebook parce que leurs algorithmes vont faire qu'ils vont quand même présenter ton info que aux gens qui sont déjà convaincus. Mmh. Et il n'y a que eux qui vont te lire. Donc, le côté où t'as pas le choix, je pense que c'est une croyance. Et je crois pas non plus des masses dans l'affichage. Hein. Mais il y a d'autres manières d'arriver à apporter des infos que passer par là. Et tant que même vous penserez que c'est un horizon indépassable, alors là, on peut dire, oui, effectivement, c'est pas gagné.
Ouais, je suis très d'accord. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir des chantiers de réflexion, par exemple, de l'associatif, on va dire au moins bruxellois, pour savoir comment est-ce qu'on peut redéployer une stratégie de mobilisation qui ne passe plus par ces structures-là. Mais je rajouterais quand même un point, c'est qu'il y a quand même un ensemble d'incitants qui viennent, par exemple, des pouvoirs subsidiants, qui ne sont pas explicitement de dire faites une communication Facebook ou faites. Mais par contre, il y a une rationalité, par exemple. Du chiffre et de l'impact, par exemple, de l'impact communicationnel, c'est des choses qui sont de plus en plus exigées par, par les structures de financement.
Tu dois réseauter loin et tu dois réseauter beaucoup. Et donc, forcément, les réseaux sociaux pour ça.
Et donc, ça rejoint ce que Guillaume disait tout à l'heure, c'est des outils qui fournissent des dispositifs de facilitation extrêmement puissants pour ce genre de réquisites. Donc,
Et j'ai peut-être une proposition, du coup. Ce serait pour ces structures-là de développer des vrais moyens de communication alternatifs, de les additionner à ceux-là, et dans leur rapport d'activité, de dire voilà, en termes de communication éthique, durable et pertinente, voilà ce que j'ai obtenu comme vue, et en termes de facilité et outils pas chers, voilà ce que j'ai pu obtenir de non qualitatif, et de le distinguer.
Non, mais après, je pense que le côté insidieux de cette structuration-là, c'est que... Bon, mais il faut déplier beaucoup de choses, mais je veux dire, tout le monde sait qu'on est dans un semi-marché, hein, même dans le non-marchand, on est dans un semi-marché, c'est-à-dire il y a une compétitivité des structures associatives par rapport à la... Il y a trop peu de financement pour trop d'associations. Donc, et ça dans un système où il y a beaucoup d'appels à projets, etc., etc. Donc, il y a une chalandisation du
oui, d'ailleurs, Nico a écrit une liste très intéressante.
Du champ associatif. Et là, ce qui encourage par-delà l'idée, par exemple, je pense que toutes les associations défendraient le fait qu'ils valorisent plutôt le rapport humain, etc. Mais les critères d'obtention des fonds, hein, des subventions, sont liés à, par exemple, l'impact, tu vois.
Oui, oui.
Donc, et l'impact, il faut défendre qu'il est le plus grand possible. Donc,
il y a une notion de durée, c'est aussi ça la question. En fait, on peut reprendre leurs indicateurs, parce que c'est aussi ça, hein, le politique, il compare ce qu'il peut comparer. Donc toi, tu dis qu'il y a 5000 personnes, l'autre dit qu'il y en a 10 000, bah, il va prendre l'autre. Mmh. Par contre, si tu dis qu'il y a 5000 personnes, mais que tu as regardé 6 mois après, qu'en fait, sur les 5000 personnes, il y en a réellement 50 chez qui c'est resté, et que l'autre, il dit rien là-dessus, tu as un argument de vente. Et donc, la question aussi, c'est que le politique, vous les renforcez en fonctionnant de cette manière-là. Vous leur servez ce qu'ils veulent entendre. Hein,
Je suis d'accord, mais en fait, c'est pour ça que je suis sensible à ce que tu disais en disant qu'il faudrait faire les deux en même temps. Mais par contre... Ça veut quand même dire qu'on peut pas faire sans. C'est-à-dire, on peut faire au mieux les deux en même temps, mais une structure qui prendrait une position forte en disant « Nous, c'est fini les réseaux sociaux privés à la Facebook. » Non, eux, ça, c'est... Eux, ils disparaissent.
Non, mais si jamais tu obtiens qu'il y a la moitié du secteur bruxellois qui joue le jeu de dire « On fait du en même temps », tu peux te retrouver d'ici 2-3 ans de dire...
Tu leur proposes l'outil.
On balance le reste et on met en place une structure de diffusion alternative.
Mais là on est encore dans le truc du milieu associatif bruxellois, enfin associatif, du milieu associatif tout court, face à Internet, à ce qui est encore des nouvelles technologies. Il faut du savoir-faire, et du savoir-faire éclairé. Et pas juste, moi j'ai fait communication, pas de problème. Le reporting MailChimp, pas de problème, je sais où mettre tout dans les petites cases. D'ailleurs, le foutu outil de. Enfin, la grille de lecture de l'appel à projet, celle qui conditionne tes subsides, il y a presque les mêmes cases dans le même ordre que sûrement le tableau de bord de MailChimp ou Facebook. Ça suit la même logique. Donc il faut aussi, enfin, il faudrait aussi s'attaquer à ça, à leur grille, enfin, dénoncer ce système, cette compétition. Donc d'une part former les acteurs et défaire.
Ce qui était d'ailleurs un truc que vous aviez en tête avec Cassiopeia, non ? Enfin si je me,
oui,
on n'a pas tellement évoqué cet aspect-là, mais je veux dire le redéploiement d'une stratégie, d'une approche. Politiquement engagé des technologies numériques à l'intérieur des champs intermédiaires comme les associations. Pour moi, c'est un chantier absolument essentiel. Donc, j'ai l'impression que vous faisiez ça, en tout cas à l'époque. Je ne sais pas ce que vous faites maintenant. Mais,
Donc, peut-être pour resituer, hein, Guillaume et moi-même, on est toujours impliqués dans Cassiopeia, mais on a arrêté de produire des services parce que le modèle économique n'était plus
viable. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Cassiopeia ?
Cassiopeia, c'est une structure qui visait à proposer à du non-marchand de pouvoir mutualiser leurs moyens pour disposer d'outils numériques adaptés et qui permettent aux gens d'échanger et pas de gagner du pognon sur le dos des gens. Et donc l'idée, c'est que Cassiopeia se voulait comme un outil mutualisé, mutualisable, et qui fonctionnait exclusivement au logiciel libre. Nous, on a un petit peu remis les clés de la boutique pour plutôt investir dans une coopérative qui va bientôt offrir ses services, qui est Nubo. C'est l'instant publicitaire, allez voir, c'est très bien.
Nubo intervient dans la revue.
Et voilà.
C'est voilà. Un chaton.
On a fait un entretien. On a fait un entretien avec eux.
Voilà, maintenant tout l'enjeu qu'il y avait derrière, c'était aussi de se dire, est-ce qu'il y a un modèle économique qui peut exister pour ça ? Étant donné que les Facebook, Mailchimp, etc., leur modèle économique, c'est de dire, vous, en tant qu'utilisateur, vous ne payez rien, on va se nourrir sur base de vos utilisateurs à vous. Ça veut dire qu'en fait, Mailchimp, qu'est-ce qui les fait vivre ? Eh bien, c'est les données des personnes qui vont lire vos infos. Facebook, qu'est-ce qui les fait vivre ? C'est pas que vous publiez quelque chose, c'est le fait que les gens vont liker, pas liker, et qu'on va pouvoir les profiler sur cette base-là. Et donc, ce modèle économique-là, les associations, en tout cas bruxelloises et le milieu culturel, etc., s'est dit que c'était un deal tout à fait raisonnable de vendre les données des personnes qui étaient leurs principaux usagers plutôt que de même payer. Et ça, c'est dû effectivement aux logiques d'appel à projet et ce genre de choses-là. Face à ça, c'est vrai que ce qu'on proposait comme modèle économique avec Cassiopeia paraissait un petit peu obsolète ou en tout cas dépassé et n'était plus économiquement viable, quoi.
Bon, c'était pas viable du point de vue peut-être des travailleurs. C'était que nous, on voulait des membres et la logique, c'était celle des clients à un moment. Enfin, il y a eu quand même un glissement où on était face à des prestataires. On se retrouvait prestataires alors que c'était pas les mêmes besoins. Il fallait le train allait trop vite, semble-t-il.
Mon constat, c'est qu'on est pris dans des paradoxes et qu'il est très grand temps qu'on se mette à table pour les envisager sérieusement, parce que on est vraiment dépassé par la vitesse quoi de ce déploiement. Je veux dire, à mon sens, quelqu'un vient et veut, je sais pas moi, se créer un compte Facebook parce qu'on lui a dit de se créer un compte Facebook, ce que je peux comprendre. Je veux dire, il y a une vie sociale quand même importante qui se passe là-dessus, donc on n'a pas envie d'en tenir. Mais la responsabilité de celui qui va l'accompagner à créer ce compte, c'est pas seulement lui créer le compte et de lui expliquer comment ça fonctionne, c'est lui dire aussi que ça a un rôle significatif dans la direction politique d'un certain nombre de choses qui arrivent aujourd'hui, que ce n'est pas seulement une liberté, que c'est aussi beaucoup d'asservissement, que ça participe à l'inefficience de tout un tas de luttes, par exemple, que... Voilà, que c'est un système de capture, que ça participe d'une certaine économie dont il ne veut pas. Mmh. On peut même aller jusque pour les plus sensibles aux questions environnementales, on pourrait même mettre ça dedans. Mais je veux dire, il y a une gravité politique qui manque, c'est ça que je veux dire. Mmh. Ce n'est pas que dire on aimerait ne pas le faire. C'est en fait il faut le faire, mais il faut le faire toujours en le doublant de d'une mise à l'épreuve des autres dimensions. Il n'y a pas que la dimension technique, il n'y a pas que la dimension sociale. Donc on ne peut plus, je crois, à mon sens, on ne peut plus se contenter de présenter ça comme l'accès à des libertés nouvelles et au mieux, on fait un peu de critique sur le côté pour quand même qu'on n'ait pas mauvaise conscience. Non. À la limite, c'est presque une question de dire, ma structure est payée par l'argent public pour favoriser cette insertion, sachez néanmoins tout ce qu'elle implique et demander des comptes. C'est à mon sens, c'est le minimum qu'on peut faire, c'est de dire la prochaine fois, je parle comme ça, mais je dis la prochaine fois que vous votez, demandez des comptes. Vous pouvez pas continuer à voter pour des gens qui ne vous disent pas ce qu'ils font. De ce point de vue-là, vous devez savoir exactement quelles sont les intentions. Il faut exiger quoi. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr d'avoir une solution clé sur porte. Je dis juste que là, on est nous-mêmes pris dans une logique où il y a énormément d'emplois qui dépendent de ça, etc. On est nous-mêmes pris dans une logique où on accompagne quelque chose et c'est déjà tellement massif qu'on n'a même plus le temps de dire l'essentiel, à savoir que certes, il y a peut-être quelques libertés que vous allez gagner en vous intégrant dans ces systèmes, mais vous allez aussi en perdre, ou en contraindre, ou en aliéner beaucoup d'autres. Ça, c'est quand même... Et à mon sens, le ratio devrait plutôt être important de ce côté-là et faible sur le côté technique. Donc il faudrait changer au moins, je ne sais pas moi, le poids des deux pratiques. Je pense à tous les emplois du secteur social qui de plus en plus se voient contraints de passer par des logiques qui sont polarisées par le numérique. Bon, ben, est-ce que c'est vraiment plus efficace ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Bon, tout ça, c'est des questions que Et ça nous revient de les poser. Mmh. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Donc, il commence à être vraiment temps, quoi. Mmh. C'est ça que je veux dire. Si on continue comme ça, on va se retrouver bientôt avec une population qui se demandera même de quoi on parle. Pourquoi est-ce que vous parlez de... Non, il faut en parler maintenant.
Et c'est sûr qu'exiger du politique qui nous explique ses objectifs, ses motivations et ses choix, ça, beaucoup de gens peuvent le faire, en tout cas.
Et puis, parce qu'en plus, comme je l'ai dit au début, il y a une solidarité fondamentale entre l'idéologie qui organise pour l'essentiel le champ politique aujourd'hui et l'idéologie qui organise l'expansion numérique. Mmh. Donc c'est des rapports qui se soutiennent mutuellement. Donc s'il n'y a pas un contre-pouvoir suffisamment puissant qui vient dire « Oui, mais en fait, est-ce que ce renforcement mutuel, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'on en veut ?» il n'y a aucune chance que ça s'arrête spontanément. Je veux dire, c'est des choses qui vont continuer à se renforcer et à s'imbriquer. Donc c'est ça aussi le point clé, c'est que... Il n'y a pas vraiment d'intérêt politique particulier dans un champ, dans une société néolibérale, à contrecarrer les logiques soutenues par la Silicon Valley. Mm-hmm. C'est des logiques qui vont très bien ensemble et qui s'auto-renforcent, et il n'y a pas de problème. Donc, si problème il y a, il faut contribuer à ce qu'il soit identifiable.
Ouais.
Et à contribuer à ce que ça devienne une question sociétale importante, quoi. Voilà. Donc... Oui, c'est ce que j'en pense.
Écoute, c'est une belle conclusion. Je vous rappelle que tout ça et bien d'autres choses seront débattues dans la revue Permanence Critique qui sortira fin juin, mais sur laquelle vous pouvez déjà avoir des infos sur le site internet de l'ARC et que vous trouverez cette info et d'autres sur nos publications, sur notre site internet aussi et sur nos réseaux sociaux qui font partie des GAFAM. Voilà.
C'est la meilleure conclusion qu'on puisse donner.
C'était Du taf au fumoir, le podcast de l'ARC, Action et Recherche Culturelle.
Je pense qu'il est très important aujourd'hui que le champ associatif fasse front pour prendre à corps et à cœur cette question des ambivalences politiques, de leur utilisation des réseaux, de leur utilisation des outils numériques et du positionnement idéologique qu'ils ont par rapport à cette réalité.
À la présentation, Anne Leventhal, à la réalisation et au montage, Raphaël de Slover, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tous les documents auxquels nous avons fait référence dans le cadre de cet échange se trouvent sur notre site internet arc-culture.be.